Bienvenue dans le débat. Si je vous dis Empire mondial, vous pensez sûrement à des armées en marche ou à des conquêtes sanglantes.
Ouais, en général, on s'imagine ça, oui.
Exactement. Mais aujourd'hui, on va analyser l'élection impériale du 28 juin 1519. C'est l'accession de Charles de Habsbourg, qui a à peine 19 ans, à la tête du Saint-Empire romain germanique.
Un empire géant, littéralement acheté avec des bouts de papier.
Voilà. Et pour moi, cette élection, c'est vraiment le triomphe géopolitique absolu. C'est l'acte fondateur d'une hégémonie universelle.
Ah, eh bien, je suis d'un avis totalement opposé. Pour moi, ce scrutin, bah, c'est pas une victoire magistrale, c'est plutôt l'acquisition d'un titre illusoire, un cadeau empoisonné, quoi, bâti sur une dépendance financière toxique.
Enfin, regardez quand même l'ampleur du coup de maître face à François Ier. Sa tante, Marguerite d'Autriche, elle a orchestré une véritable OPA hostile.
C'est vrai que le terme OPA est approprié.
N'est-ce pas? En mobilisant 2 tonnes d'or, Charles sécurise le plus vaste domaine chrétien depuis Charlemagne, un empire sur lequel le soleil ne se couche jamais. Même le pape Léon X était terrifié par cet encerclement géopolitique.
Alors oui, cette terreur papale, elle est bien réelle, mais la réalité du pouvoir de cet empire, l'est beaucoup moins. Vous parlez d'OPA, regardons justement le montage financier.
Allez-y.
Il y a 850 000 florins qui sont avancés par des banquiers, notamment Jacob Fugger. Et attention, ce n'était pas un simple prêt de confiance.
Non, c'était extrêmement structuré.
Exactement. Fugger a utilisé des lettres de change. C'est l'équivalent de nos comptes séquestres modernes, en fait. L'argent n'était débloqué qu'après l'élection et uniquement si Charles gagnait.
Attendez, concrètement, comment Fugger s'assurait-il de revoir son argent? Je veux dire, le jeune Charles ne parlait même pas allemand, il n'avait jamais mis les pieds dans l'Empire. Le risque me paraît fou, non?
Bah, le risque était calculé. Fugger savait très bien que l'autorité germanique n'est pas absolue. Le titre d'empereur ne donne pas les pleins pouvoirs.
Vous parlez du rôle des électeurs.
Tout à fait. Les 7 princes électeurs, comme Frédéric de Saxe, ils ont accepté l'or, oui. Mais ce sont eux qui gouvernent de facto. Charles ne peut pas lever d'impôts sans eux. Il lui rappelle d'emblée que l'Empire, bah, c'est pas l'Espagne. Sa couronne est hypothéquée dès le premier jour.
Je comprends votre point de vue, mais laissez-moi vous offrir une autre perspective. Cette dette colossale, c'était justement son meilleur bouclier.
Ah bon? Un bouclier?
Oui, c'est le principe moderne du too big to fail. Fugger ne pouvait plus le lâcher. Si Charles fait faillite ou chute, la banque d'Augsbourg s'effondre avec lui. Charles se retrouve comme le PDG d'une entreprise rachetée par effet de levier. Il est tellement endetté que ses créanciers sont obligés de le maintenir au pouvoir pour espérer revoir leur argent.
Ouais, je vois l'idée. Sauf que ce PDG, il est complètement paralysé par son conseil d'administration. Et c'est là que la dette se heurte au mur de la réalité politique.
Comment ça?
Fugger l'accule. Il lui écrit carrément, noir sur blanc, qu'il est notoire que Sa Majesté n'aurait pu obtenir la couronne sans son concours. C'est d'une violence inouïe. Et le pire, c'est que cette paralysie l'empêche de gérer la crise grandissante avec le moine Martin Luther.
Attendez, vous pensez vraiment que sa gestion de Luther est directement liée à ses dettes bancaires?
J'en suis convaincu, totalement. Luther, il est protégé par Frédéric de Saxe, l'un de ces princes électeurs dont on parlait.
Ah oui, le piège se referme.
Exactement. Charles est coincé. Théoriquement, il devrait écraser cette hérésie d'un claquement de doigts. Mais dans les faits,
Ah.
il a un besoin vital des princes pour maintenir l'ordre et payer ses créanciers. Il ne peut absolument pas se mettre Frédéric de Saxe à dos.
Eh bien, l'ironie est effectivement frappante. L'or l'a couronné, mais ce même besoin d'or le rend impuissant face à la réforme. Mais malgré ses lourdeurs, cette élection a tout de même redessiné la carte du monde. Charles a posé les fondations d'une autorité globale qui va dominer le XVIe siècle.
C'est une domination de façade pour moi. Ça masque le fait que ce règne débute avec la plus grande reconnaissance de dette de son temps. Il est entré dans l'histoire les mains liées par ses banquiers, inapte à stopper la fracture religieuse de l'Europe.
Eh bien, c'est toute la complexité de cet événement. L'hégémonie mondiale ne naît pas toujours d'une charge héroïque, mais parfois dans les registres comptables d'une banque. À vous, chers auditeurs, de déterminer si cette élection a fait de Charles un maître absolu ou le prisonnier doré de ses créanciers. Il reste tant de nuances à explorer dans cette histoire. Merci de nous avoir écoutés.